Une heure avec
Philippe Solers.
Une émission de Frédéric Casadesus.
Il faut toujours prendre au sérieux les écrivains. Enfin, toujours. Pas toujours au pied de la lettre. Mais à l'esprit, oui. La vérité de leur temps, voilà ce qu'ils nous disent, au moins quand ils sont animés d'une élégance véritable, de cette élégance qui ne se voit pas, si française en quelque sorte. Le second volume des lettres que Philippe Solers a envoyées à Dominique Rollin, ce second volume vient de paraître aux éditions Gallimard, et l'écrivain nous reçoit dans son bureau. C'est une chance pour nous, pour vous. Et sans peser, nous l'espérons du moins, nous allons lui poser quelques questions, en espérant, une fois encore, qu'il ne réponde pas seulement par des réponses, mais aussi par des questions. Philippe Solers, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir donc dans ce bureau des éditions Gallimard, pour parler aux auditeurs de Fréquence Protestante, non seulement de ce volume de correspondance, mais encore de ce que j'appellerais l'air du temps, car au fond, rien n'est plus profond que la surface des choses, parfois. Surtout quand on vous lit et qu'on vous écoute, on sent bien que vous êtes un être particulièrement sensible. Alors, toute première question, la plupart des lettres qui paraissent dans ce volume que vous avez adressé à Dominique Rollin, la plupart de ces lettres, dis-je, ont été envoyées depuis le Martret, qui est un lieu formidable de l'île de Ré. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, elle, c'était l'île ?
J'ai toujours pensé que lorsqu'on vit dans la clandestinité, comme j'en ai l'expérience, et je suis très heureux d'avoir maintenu cette expérience jusqu'au moment où nous sommes, dans un bureau de chez Gallimard, à Paris, dans le 7e arrondissement, d'avoir maintenu toujours un contact avec ce que j'appelle l'arrière-pays. L'arrière-pays, pour moi, commence très tôt. C'est-à-dire, je suis né à Bordeaux, dans une époque que je vais... sur laquelle je vais revenir, mais ce lieu de l'île de Ré a été une découverte de mon arrière-grand-père, dont je parle dans ce roman qui s'appelle Le Nouveau, arrière-grand-père qui était capitaine au long cours et qui donc faisait à bord d'un voilier à l'époque ce qu'on appelle le voyage de l'Atlantique vers Londres ou vers New York ou vers un marin. Le lieu a été donc choisi avec un coup d'œil de marin. La plupart des écrivains ou des intellectuels français sont du terroir, mot que je ne comprends pas, car moi j'ai toujours vécu d'une certaine façon avec la vision d'être au large, c'est-à-dire vers l'océan, à Bordeaux quand même, et vers Londres comme deuxième capitale de la France. Du moins pour ma famille qui était extrêmement anglophile, ce qui a préservé ma jeunesse de toute compromission, mon enfance et ma jeunesse, de toute compromission avec le régime trop terroir, la terre, elle, ne ment pas, et travail, famille, patrie, comme disait le maréchal Pétain. Rien à trouver dans mon casier sur ce thème.
Ah, c'est désolant, oh là là, je m'en vais.
Et c'est très important, parce que, comme vous pouvez le constater, dans l'époque ultra-réactionnaire où nous vivons, Tous ces vieux démons ne demandent qu'à ressurgir. Ils sont là, ils tapis et profonds dans l'ombre. Donc nous ne sommes pas sortis du naufrage de l'auberge France.
Alors, puisque vous évoquez, je vous en suis très reconnaissant, les questions de géographie. Vous n'êtes pas du terroir, mais vous êtes d'un certain imaginaire. Vous n'êtes pas non plus hors sol. Vous venez de parler de Bordeaux et de Londres. On pourrait y voir le goût de l'estuaire, c'est-à-dire quand même d'une certaine distance. Le goût du grand large, mais tout de même un cant à soi.
Hors sol, non, puisque je suis tourné vers l'eau. Donc, sur l'eau.
Oui, vous n'êtes pas hors sol, vous êtes attaché à votre imaginaire.
Eh bien, je suis attaché par plusieurs côtés à la fois, dans la mesure où je n'existerai pas sans mon compatriote qui m'a tout appris, en quelque sorte, au lycée, où je suivais les cours sur les essais qu'il a écrits dans sa librairie, qui est Montaigne, évidemment. Vous savez, Bordeaux, c'est Montaigne, c'est la Boétie, c'est Montesquieu, c'est Mauriac, landais exilé à Bordeaux, et ce sera moi, un jour ou l'autre, par une avenue que je souhaite la plus large possible.
Oui, car Mauriac est un Bordelais avec un pas de côté, tandis que vous êtes un franc Bordelais.
Exact. Donc c'était un Landais, et donc il a souffert plutôt d'un Bordeaux des préjugés de son époque. C'est une ville qui a beaucoup changé au cours du temps. Moi, je l'ai connu de noir, puni de son passé. La place Louis XV était devenue la place de la Bourse. Elle est toujours la place de la Bourse. Donc, mais il y a quand même eu un Juppé, maire de Bordeaux, ça n'est pas Montaigne, mais c'est quand même pas mal, et qui a remis la ville à son niveau, dont Stendhal disait en 1825, vérifié, que c'est la plus belle ville de France, et qui la compare à Venise, etc. Donc c'est une ville du 18e avec une architecture splendide. Si on va sur les quais aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes passé par Bordeaux.
Évidemment.
Mais oui, et c'est une ville qui rayonne avec cet esprit quand même extraordinaire de Montaigne qui a quand même influencé le monde entier, et a commencé par Shakespeare, qui buvait le claret qui lui était envoyé de Bordeaux avant de monter en scène, et qui lisait Montaigne dans la traduction de Fleuriot. Donc c'est une ville de très importante dans la mesure où elle échappe à la France. À la France, lorsqu'elle se moisit. Et vous remarquez bien une chose, c'est que quand le pouvoir parisien de la République s'effondre, où est-ce que tout le monde va ? À Bordeaux. En 1914, à Bordeaux. En 1870, à Bordeaux. En 1940, à Bordeaux. Et là, il faut quand même prendre un avion sur l'aéroport de Mérignac. Il y a quelqu'un qui a l'audace folle, qui va être condamné à mort pour dissidence aggravée, comme traître. C'est le général de Gaulle, qui n'est pas du tout de Bordeaux, mais de Lille, mais qui quand même a pris son avion pour Londres. La banque de ma famille s'appelait la Westminster, et j'ai toujours entendu dire à cette époque, par cette famille mais bizarre, qui était très anglophile, mais qui appliquait la tradition, tout simplement, de la bourgeoisie éclairée, à savoir que les Anglais ont de toute façon toujours raison. Peut-être pas pour l'Irlande, mais c'est vrai, ça peut se discuter, même polémiquement.
Surtout mais, pour un catholique, comme
mais,
vous.
Voilà. Mais enfin, la cathédrale de Bordeaux, allez la voir, je parle sur fréquence protestante, en me mettant sur la pointe des pieds, et la cathédrale de Bordeaux est assez gothique. C'est une cathédrale catholique, mais enfin, finalement, catholique anglaise, d'une certaine façon. C'est très étrange. L'Angleterre est un pays absolument fascinant, parce que arriver à maintenir la tradition britannique et avoir créé quand même une religion subsidiaire, mais anglicane, comme on dit, m'a toujours paru très étonnant. Vous savez, j'ai 5 ans, 6 ans, lorsque la reine Mary est venue à Bordeaux. La vieille Mary avec ce chapeau qui était déjà... Elles ont toujours eu des chapeaux extravagants. Et donc, ma famille avait aidé une Anglaise du lieu, enfin, et puis caché des aviateurs anglais dans les caves. L'époque était quand même très, très bousculée, n'est-ce pas? Je vous parle des années 40, où on se cachait dans les greniers pour écouter Radio Londres à Bordeaux. Dans les greniers, parce que le bas des maisons et des jardins étaient occupés par les Allemands. C'était en zone occupée. Donc, ça donne ça. Un enfant, c'est moi, entend brouiller à la radio les messages de Radio Londres. Le brouillage est intense et les Français parlent aux Français. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Et voici quelques messages personnels. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Je répète. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Le cardinal ne parle pas l'espagnol. Les carottes sont cuites. Qu'est-ce que c'est que ça? Conseil, cher monsieur, de recommander à tous vos auditeurs de se procurer, c'est trouvable en librairie, les messages de Radio Londres, un gros volume. Il y a là Pierre Dac, qui est un humoriste considérable de l'époque.
Qui avait inventé le Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
Oui, exactement, et c'était pour un enfant tout à fait extraordinaire de se cacher avec ses parents dans les greniers pour écouter des messages qui avaient l'air d'une poésie remarquable, opaque, énigmatique, surréaliste. Donc, cette radio de Gaulle, en somme, était surréaliste. De Gaulle surréaliste, avouez que ça ne manque pas de vertu.
C'est vrai. Alors, donc, nous nous sommes un peu promenés en vous écoutant de Bordeaux à Londres. Et je voudrais vous demander justement la place de l'île de Ré. Quand vous arrivez à Ré la première fois, vous venez du sud. Maintenant, quand vous y partez, vous venez du nord. Y a-t-il un rapport à la lumière qui soit spécifique?
Tout à fait. C'est une île tout à fait étrange qui bénéficie d'un microclimat. Donc, souvent, il y a une tempête par-ci, par-là, oui. Et rien, ou alors des inondations, parfois un peu brutales. Mais, quand même, cette île qui a été l'objet d'une reconquête, enfin, c'est au large de La Rochelle, puisque je parle sur fréquence protestante...
Oui, faites gaffe, hein.
Toute ma compassion va aux habitants de La Rochelle.
Merci, merci, merci.
Et la Saint-Barthélemy, je suis comme Voltaire. J'ai un petit accès de fièvre chaque fois qu'il est question de la Saint-Barthélemy. Nous sommes d'accord. Cela dit, c'est un endroit tellement étonnant que lorsque j'y arrive, on est obligé de reconstruire les maisons. Parce qu'elles ont été rasées, tout simplement, par les Allemands, par les nazis, et par la Wehrmacht, etc.
C'était une zone interdite, il faut le rappeler à nos auditeurs, parce que toute la côte, mais l'île elle-même, était interdite.
Vous vous rendez compte que ces crétins allemands avaient comme fantasme de murer l'Atlantique. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir murer l'Atlantique. N'oubliez pas que le général Rommel est venu lui-même consacrer les travaux et les surveiller. Et il y a encore des blocos effondrés, etc. Quoi qu'il en soit, pour des raisons qui stratégiques, la propriété de cet arrière-grand-père marin...
Du Martrais, donc.
Qui aurait été très étonné de voir déboucher des Allemands dans sa région.
Oui, il ne l'aurait certainement pas imaginé.
C'était pas les Anglais, c'était les Anglais avant qui essayaient de reprendre La Rochelle. Oui. Enfin bon, d'accord. Oui. Mais vous voyez, comme c'est un lieu de passage de toute l'Europe, enfin, de façon très 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 intense. Donc, les maisons avaient été rasées. Pourquoi ? Parce que ça gênait tout simplement la batterie côtière qui était une grande l'artillerie qui était sur le trajet. Les tirs pouvaient être gênés par les maisons en contrebas. Voilà. Donc, c'est une histoire énorme. C'est-à-dire que j'ai été poursuivi toute ma vie par des destructions de maisons. Les jardins de Bordeaux et la belle propriété que nous habitions à la périphérie de Bordeaux, mes parents, mon père a fait faillite et tout ça a été rasé et c'est devenu un supermarché. Et vous avez un roman de moi qui s'appelle Portrait du joueur. Je visite ce supermarché en me demandant où était ma chambre, peut-être là au troisième ou deuxième étage, etc. La destruction des maisons, c'est très impressionnant parce qu'on est obligé de les réinventer dans son imaginaire et dans ses rêves, parfois. Pour l'île de Ré, j'ai 2 ou 3 ans, donc j'ai des souvenirs quand même très peu précis, sauf de l'océan qui est là, tout près, avec des marées considérables, parce que l'océan se retire et revient. Rien à voir avec la Méditerranée. Le sud-est est absolument une région que je n'aime pas. Le sud-ouest, monsieur, le sud-ouest. Et donc, il a fallu reconstruire les maisons, et j'ai assisté petit à petit à la reconstruction des maisons. Donc, ça avait été rasé, voilà, tout simplement.
Mais alors, justement, Philippe Soler, si j'ai souhaité vous poser ces quelques questions au sujet de l'île de Ré, au sujet de la géographie, c'est parce que ces lettres à Dominique Rollin, tout comme d'autres textes que vous avez écrits ailleurs, d'ailleurs, me paraissent imprégnés, nourris par la géographie. Plus que par l'histoire, on vous rattache bien sûr au grand courant politique du fin du XXe siècle, mais il me semble que vous êtes aussi un écrivain géographe.
La géographie et l'histoire, ça doit être la même chose. C'est comme la musique, la peinture, la littérature, c'est la même chose. C'est le même corps qui découvre le monde à sa façon, avec ses perceptions, surtout enfantines. Si je n'avais pas eu dans le salon, la librairie, enfin dans la bibliothèque, un globe terrestre qui pouvait tourner sur lui-même, où je voyais un pays en jaune qui s'appelait, voyez-vous, la Chine, et dans les appartements, les salons, il y avait, très étrange, des vases chinois. Des vases chinois bleus et blancs, avec des caractères indéchiffrables pour un enfant. Et puis des rouleaux comme ça, des vases, vous voyez. Et alors, ça venait, la Chine, c'est où ? Là, c'est là, si on tourne, on fait tourner, etc. Et je me rappelle très bien que j'ai 7, 8, 9 ans... Je me suis dit, tiens, il faudra que j'aille là un jour. Et géographiquement, ça s'est produit. Avant, il a fallu passer par toutes les grandes villes d'Europe et par New York, bien entendu. À ce sujet, laissez-moi vous dire que la géographie et l'histoire, c'est très, très important pour comprendre le monde où l'on vit encore aujourd'hui.
Bien sûr.
Et j'en veux particulièrement aux intellectuels français.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ne connaissent pas l'Europe. Et donc ils font semblant, très tardivement, de la découvrir, mais c'est trop tard. Il faut la découvrir très tôt. Je n'ai pratiquement jamais pu parler avec un intellectuel français de ses voyages en Europe. L'Europe, pour moi, ça a été très vite. Mon Dieu, l'Espagne, évidemment. Je parlais couramment l'espagnol. Lisez mon premier livre qui a eu un peu de succès. Vous comprendrez pourquoi, à l'âge de 14 ans, j'ai été tout à fait adultophile. Et donc, je parlais couramment l'espagnol. Et j'ai vécu beaucoup, notamment avec Dominique Rollin, à Barcelone, une ville qui ne s'arrêtait jamais et qui est retombée maintenant, mais qui ne dormait que vers 5 heures du matin. Les Ramblas, etc. C'était une merveille.
À une époque où, en France, c'était une chose quasi impensable.
Tout à fait. Mais c'était très populairement considérable. Et c'est là où, aujourd'hui, c'est interdit, pratiquement. Mais où j'ai vu les plus belles corridas que j'ai jamais vues de ma vie, c'est-à-dire avec Luis Miguel Dominguín et un public absolument fanatique. Si on veut interdire la corrida, il faut pas s'en tenir là. Il faut brûler tous les tableaux de Picasso qui ont trait à la corrida. Ça fera un très beau feu.
Bon, ne nous égarons pas.
Ne nous égarons pas, mais vous voyez
c'est
comme
le même sujet,
la géographie et l'histoire. Voilà. Et après, ça a été la découverte émerveillée de l'Italie, bien sûr. Là, ça a commencé très très vite. Et puis, le lieu et la formule, comme je l'ai déjà exprimé comme ça, le lieu et la formule, c'est une formule de Rimbaud. Moi, pressé de trouver le lieu et la formule. Vous voyez, le lieu et l'histoire. Et à ce moment-là, c'est Venise, et qui est où j'ai passé avec Dominique Rollin, justement, parce que je lui écris tout le temps qu'on va se retrouver là bientôt, printemps et automne, comme on dit en chinois. Et donc, c'est l'éblouissement. C'est une ville éblouissante. Alors, vous êtes saisi par le choc. Excusez-moi de vous le dire comme ça, le choc absolu de la splendeur catholique.
Mais je vous attendais, ne vous inquiétez pas.
C'est-à-dire où tous les sens sont appelés à fonctionner ensemble.
Fatalitas, nous allons souffrir.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une ville. Alors, vous savez peut-être que mon dictionnaire amoureux de Venise est considéré comme un livre majeur de ma part. C'est celui qui s'est vendu le mieux, enfin avec femme. Mais il est conseillé par toutes les agences de voyage et j'ai des retours tout à fait étonnants des gens qui m'abordent pour me dire heureusement que j'avais votre livre parce que vous n'êtes pas assez, vous ne parlez pas assez de Carpaccio. Oui, c'est ça.
C'est ça. Oui. Voilà. Alors, justement, si j'aborde ce livre de correspondance par le biais de la géographie, c'est que, au fond, on a le sentiment de plusieurs sentiments. D'abord, je tiens à dire que c'est un très beau livre de correspondance et qu'une femme qui a inspiré ce livre ne devait pas être n'importe qui. Sans doute. Vous donnez d'ailleurs à travers ces lettres le désir de lire aussi Dominique Rollin. Ce n'est pas un livre égocentrique.
Il y a déjà publié un livre de ces lettres et le deuxième devrait paraître là à l'automne 2020. C'est le deuxième volume. Et je dois dire qu'avec le temps, ces lettres sont de plus en plus belles. Et comme elle était elle-même d'une beauté très remarquable, et qu'elle est restée belle jusqu'au bout, comme protégée du temps par sa vivacité d'esprit, son rire, son humour, et le fait de sa discipline d'écrivain. Car c'est ça qu'elle me disait toujours.
Et ce que l'on comprend, c'est que vous l'avez écoutée sur ce terrain.
C'est une correspondance très, très étonnante, je crois unique, puisqu'il s'agit de deux écrivains. Donc, ils se répondent et qui partagent le même souci de lecture, de travail, etc., de discipline. Elle était beaucoup plus disciplinée que moi et je lui dois beaucoup sur ce plan-là. Elle était beaucoup plus visuelle que moi. C'était une très bonne dessinatrice et souvent elle voyait les tableaux d'une façon beaucoup plus percutante et beaucoup plus aiguë que moi. Je me rappelle très tôt, on a fait par exemple une visite de la première exposition Poussin à Paris et c'était vraiment elle qui voyait le plus, le mieux. En revanche, c'est moi qui lui ai fait découvrir la musique. On écoutait de la musique ensemble. Et vous savez, ce qui est très important, c'est de savoir si vous pouvez vous entendre, c'est le cas de le dire, avec quelqu'un, tout en écoutant de la musique. Pas en parlant, pas en étant silencieux, parce que le grand problème d'aujourd'hui, c'est qui a le sens du silence. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit vraiment, je vais citer un nom maudit de penseur qui a eu une enfance catholique, j'y peux rien. Mais
on vous pardonnera.
Oui, je ne suis pas sûr parce que vous allez voir le nom que
j'attends avec inquiétude, mais bon.
Martin Heidegger, et c'est lui. Et
Fatalitas.
Et je vous conseille, je conseille à tous vos auditeurs de se procurer le livre qui vient de paraître là maintenant chez Gallimard, qui s'appelle Méditation, qui est de 1938-1939, où dans la fournaise nazie, Heidegger qui ne parle pas du tout de l'actualité, mais de ce qu'il a tendance à vouloir fonder comme nouveau commencement d'une histoire qui ne serait plus l'histoire ancienne, mais une nouvelle temporalité, vous fondez tout simplement une logique du silence, la cygétique, logique du silence, comme c'est intéressant. Parce que ça concerne directement à l'écrivain. Un écrivain, lorsqu'il se met à s'entendre écrire, est dans un silence très profond. Nous n'avons pas été dit Nietzsche à la fin de sa vie. Vous savez, c'est un des messages les plus bouleversants de Nietzsche quand il va sombrer dans la folie. Mais juste avant, il dit « Ce monde pour lequel nous n'avons pas été assez silencieux ». Est-ce que vous ne trouvez pas ça extraordinaire au moment où nous parlons dans un pays comme la France, où le brouhaha, le tatamar, les vociférations et le bruit occupent tout, sans parler de tous les réseaux sociaux, de cette démocratie effervescente où tout le monde parle, en disant la plupart du temps des choses qui ne sont pas vérifiables, ou en accusant X, Y ou Z de je ne sais quelle turpitude. Et puis vous avez les manifestations, etc. Vous êtes dans un bruit constant. Quand ce n'est pas le bruit constant, allez dans un café, nous allons ensemble dans un café, il y aura beaucoup de bruit. Vous verrez la jeunesse qui est là, qui fait beaucoup de bruit. Et ça jacasse, et ça jacasse, et ça jacasse, et les filles jacassent beaucoup. Et puis, vous les voyez de temps en temps, mais très très fréquemment, baisser leur visage vers leur ordinateur et leur portable qui est là tout de suite sur la table. Plus de conversation, il y a simplement des selfies. Elles se montrent, elles se photographient, elles se montrent.
Les garçons aussi, d'ailleurs.
Les garçons aussi. Mais les garçons, à ce moment-là, sont des filles, si je veux dire.
Ah, ça, là, d'accord.
Ben oui,
de plus. Par le narcissisme, vous voulez dire que le narcissisme est féminin?
Je ne dis pas le narcissisme seulement, je parle de l'hystérie. Et l'hystérie est la sanction de la société où nous sommes. L'hystérie, vous savez, c'était pas si facile de la découvrir, de la faire parler, de la signifier. Là, c'est quand même quelqu'un, alors qu'il n'est ni protestant, ni catholique, mais c'est un juif admirable, et très, très particulier, et très athée. C'est Freud. Freud a toujours insisté beaucoup sur son athéisme, tout en disant que...
Il était très juif en même temps.
Que la psychanalyse, c'est bizarre, avait été découverte par un juif. Voilà. Donc,
Alors, pour revenir, pardonnez-moi, cher Philippe Soler, cette question, mais pour revenir à cette question de la correspondance avec Dominique Rollin, ce qui vous rassemblait, c'était une même façon de vous taire, au fond, d'écouter le silence.
Voilà. C'est la logique du silence. Et, c'est ce qu'on peut appeler le silence de l'amour. Parce que l'amour qui bavarde, c'est pas de l'amour. L'amour qui en dit trop n'est pas de l'amour. Qu'est-ce que c'est, une vertu du silence. Et donc savoir écouter de la musique ou se taire ensemble ou savoir comment marcher ensemble en silence, c'est très important parce que la façon de marcher est aussi révélatrice de la façon dont deux discours parallèles se tiennent, pas forcément en parlant. Oui. Donc il y a un silence de la nature auquel, vous savez, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sur les confuses paroles, voilà, c'est Baudelaire, c'est le fameux, le poème extraordinaire qui s'appelle Correspondance, où les parfums, les sons, les couleurs se répondent, et qu'est-ce que c'est que ce sentiment de la nature? Alors, ce qu'il y avait de merveilleux chez Dominique Rollin, et qui est visible dans les lettres qu'elle m'envoie, c'est qu'elle a un sens, elle travaille souvent dehors, à son manuscrit, notamment lorsqu'elle est à Jurlépin d'où elle m'écrit, et où alors elle était à Venise sur un ponton, elle s'isolait pour écrire. C'est la façon qu'elle a de parler de la nature en des termes extraordinairement précis. Voilà, c'est le temps qu'il fait, le vent, les arbres, les fleurs, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'aborder la parole de la nature. Vous voyez que c'est un thème aussi très actuel, puisqu'on s'inquiète de cette planète qui va probablement exploser, qui est en train, en Australie, de vous donner de ses nouvelles d'une façon absolument terrébrante. Et donc, qu'est-ce que l'homme a fait de la nature? Pourquoi est-il plus sensible au sens baudelairien? C'est un temple. Voilà qui doit plaire aux protestants que vous êtes.
Ça nous parle, comme on disait chez les cuistres.
Voilà. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, etc. C'est Baudelaire. Mais le temple, là, c'est un temple, c'est le temple de l'Antiquité qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi, on parle du paganisme, qui m'a toujours paru être une absurdité totale. Les païens, comme on dit, mais c'est...
Il y a beaucoup de paganisme dans le catholicisme, si vous m'autorisez cette pointe.
Eh bien, le catholicisme, cher monsieur, a été chargé par le temps. Il est dans un drôle d'état, il faut bien dire. C'est la fin.
À ce point-là?
Oui. En France, c'est clair.
Vous dites que le catholicisme est à sa fin?
Oui, bien sûr. C'est un naufrage admirable, d'une certaine façon. Être à la mesure de ce naufrage, ça n'est pas rien. Il faut être vraiment le vivre de l'intérieur, en restant fidèle au bateau qui s'effondre. Regardez le pauvre François, ce pape jésuite, comme c'était curieux qu'un jésuite arrive à la papauté. C'était peu probable, ça n'était jamais arrivé, en plus un Sud-Américain. On avait eu déjà des surprises, Jean-Paul de Polonais, Benoît XVI allemand, tout de suite traité de Panzer, pape, etc. Oui. Quelle polémique. Bon, regardez ce pauvre pape, mon Dieu, qui vous parle désespéré, il sait qu'il est sur une ruine, et avec une curie qui est elle-même ruinée. C'est clair, c'est bouleversant. Moi, j'éprouve beaucoup d'émotions de le voir parler de la paix, et encore de la paix, cher monsieur, de la paix, alors que tout est en guerre, que vous avez les massacres à tout bout de champ partout, et que la planète est peut-être en train d'exploser.
Donc, enfin, ça, c'était déjà le cas en 14-18, en 39-45, les papes.
Non, pas du tout. Il y avait beaucoup de destruction, et il y avait pas là ce que Heidegger anticipe en parlant de dévastation, ça n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez avoir beaucoup de destruction, et puis des reconstructions. Après tout, les villes entières ont été anéanties et on les reconstruit. Là, c'est autre chose. C'est une dévastation. C'est le sel de la terre. C'est comme si le sel était lui-même plus là. Donc, vous savez très bien que il faut se mettre dans un espace tragique, ne serait-ce que pour rebondir le plus vite possible dans un saut de joie.
Alors, en lisant ces lettres, justement, on retrouve différents événements, l'air du temps des années 80, 90 et 2000, et on vous a taquiné à l'époque sur ce que vous écriviez au sujet de Jean-Paul II, et relire certaines pages au sujet de Lourdes, évidemment, pour le protestant que je suis, est un peu saisissant. Mais je trouve que ça tient bien la route, si vous m'autorisez cette formule, parce que justement, avec le temps, tout cela prend sens. D'une part, vous l'avez déjà laissé comprendre, votre catholicisme trouve à s'y étancher comme dans une soif. Est-ce qu'on peut dire que, bien malgré vous parfois, vous êtes un écrivain catholique, Philippe Solers?
Je suis un catholique écrivain, ce qui est tout à fait différent. Je me sens solidaire de ce que j'ai appelé tout à l'heure en parlant de Venise, et Dominique Rollin était tout à fait d'accord avec moi. Elle avait vécu, elle est juive, elle était juive, venue de Lodz en Pologne, transitant par la Hollande et arrivée à Bruxelles, dont elle avait la nationalité, la double nationalité française et belge. Sa mère était tout à fait juive et son père très très anticlérical. Et elle me disait souvent que là où elle était, elle voyait les fêtes catholiques auxquelles elle ne pouvait pas participer, et qu'elle trouvait très belle. Et donc, comme c'est dommage, oui. Et alors, Venise, l'Italie a fini de la convaincre que c'était là que, puisque c'était si beau, ça devait être vrai. Et donc, elle a décidé de se convertir au catholicisme, et ça a eu lieu tout près d'ici, à l'église Saint-Thomas d'Aquin, où j'ai été son parrain. Donc, elle a été reçue catholique, et c'est là, dans la même église, qu'elle a été enterrée par un curé d'ailleurs charmant, tout à fait, avec une très belle voix, et qui m'a dit, mais est-ce que vous pouvez me donner un signal pour que je puisse réciter? Je vous en prie, je dis, asseyez-vous, voilà, on va parler. Et je lui dis, écoutez, il y a une phrase qu'elle avait recopiée dans ses cahiers, il y a une phrase de Spinoza que je vous demande de citer. Ah bon, il me dit, oui, pourquoi pas. Voilà, il l'a fait. Et la phrase de Spinoza qu'elle avait notée est la suivante. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels.
Oui, donc c'est...
Vous voyez que j'ai pris un philosophe qui... était sur le point...
Mais qui traversait les lignes.
Voilà, de basculer plutôt, d'ailleurs.
Et oui, de notre côté, vous allez dire.
De mon côté.
Ah, bon. Vous voyez. Eh oui. Voyez. Je crois
Parce que
je vois.
Tous les esprits éclairés finissent par, par se rejoindre.
Allons, oui, voilà, c'est ça, se rejoindre. Bon, un même paysage, au fond.
Vous savez qui a soufflé la phrase fameuse dans Henri IV, qui quand même a mis fin aux guerres fastidieuses et mortelles. Ça dit, Paris vaut bien une messe. Hein?
Oui.
Eh ben c'est Montaigne, indubitablement.
Alors, Philippe Solers, en évoquant ces lettres à Dominique Rollin, je désirais aussi vous demander quel rapport vous entretenez aujourd'hui à la littérature et quel rapport notre époque vous semble entretenir avec la littérature. Deux questions vraiment très différentes. Alors d'abord vous et puis notre époque ensuite. Mais si vous voulez inverser, c'est vous qui décidez.
J'ai de moins en moins envie de parler de littérature, compte tenu du fait que c'est un lieu de confusion extrême, où on vous vend comme littérature ce qui n'en est pas et qui parfois, mais très rarement, en est. Vous savez, je reçois à peu près 10 manuscrits par semaine. Donc, c'est des manuscrits qui me sont adressés et les auteurs ou les autrices se sont persuadés de faire de la littérature. Pourquoi ils n'envoient pas ça à Philippe Solers aux éditions Gallimard en espérant être lu attentivement. Et je vais vous dire une chose, c'est que mon assistant me trouve d'une inhumanité totale. À peine j'ai lu une page, et une page c'est déjà beaucoup, que je sais que ça va pas. Pourquoi ? Parce que la littérature, si elle est accomplie, si elle se fait sentir, c'est une voie. Et une voie que vous suivez dans son énonciation qui s'entend elle-même. Et la plupart du temps, dès le premier paragraphe, c'est foutu. Et donc il me trouve inhumain, car je ne retiens pratiquement rien, sauf merveille. Ah ben alors, là je vais lire le manuscrit jusqu'au bout. Et en général, je réussis à le faire publier. Mais c'est très rare. Donc il faut se méfier de ce mot qui sert à tout et à n'importe quoi. Il est très rare, c'est comme le mot poésie, parce que tout le monde est censé faire de la poésie. Je reçois aussi des tas de poèmes qui sont ni faits ni à faire, parce qu'ils sont sourds, que l'auteur ne s'entend pas. Voilà.
Comme disait Léo Ferré, la poésie, ce n'est pas une domestique. Elle ne vient pas quand on l'appelle.
Voilà, c'est un art. Vous comprenez, qui se rend compte que faire avec les mots, est un art. C'est un art de parler, c'est un art d'écrire, etc. Et comme le dit le regretté Guy Debord, regardez ce livre qui vient d'être publié.
Très belle couverture bleue, je le dis poésie, pour nos auditeurs.
Poésie, etc. Vous voyez, L'Échappée, aux éditions L'Échappée. Ce sont toutes les notes prises par Guy Debord. Et vous n'avez pas l'impression qu'il passait son temps à ça. Il lisait énormément. Il lisait énormément. Là, je suis en train de lire toutes les références bibliographiques qu'il fait à la poésie chinoise. Voilà un révolutionnaire complet qui sait que pour faire la révolution, il a échoué. Mais c'est grand.
Mais
c'est grand d'échouer.
Alors il a échoué, mais il a vu juste sur un point, c'est la société du spectacle. Et vous avez contribué, j'allais dire, à sa réhabilitation il y a une petite trentaine d'années.
À mon admiration, d'abord, c'est un échec grandiose. Il y a des échecs qui valent mieux que des réussites. Et voilà ce qu'il y a sur la couverture. Une phrase de Debord qui va dans le sens de ce que nous étions en train de dire. Pour savoir écrire, il faut avoir lu, et pour savoir lire, il faut savoir vivre.
Très juste, évidemment.
Eh bien, voilà ce qui attend les gens qui ne lisent plus, ce qui est le cas. Presque plus personne, vous le savez aussi bien que moi, il faut prévenir vos auditeurs qu'ils ne lisent pas assez. Je suis sûr qu'ils ont envie d'entendre cette admonestation solennelle. Plus au ciel que le lecteur enhardi est devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit. Et c'est le début des chants de Baldoror de Lautréamont. Voilà, il faut que le lecteur, il doit être réveillé, il doit être plein en alerte, Et il doit sentir que c'est une urgence totale pour lui de lire. Sans quoi, vous savez quoi, il n'entraîne pas sa mémoire. Vous vous donnez 10 lignes à lire et vous retirez les copies et vous demandez qu'est-ce que vous avez lu. Vous savez, monsieur, c'est épouvantable. Nous sommes dans une grande clinique d'aliénés. incapable de lire Proust. Incapable, voilà.
Vous encouragez les gens à lire.
Mais je ne les encourage pas. Je leur dis de continuer s'ils ont commencé.
Oui.
Et c'est ce qui m'étonnerait, parce qu'ils ne lisent pas.
Tout de même, chez les protestants, on a la pratique de la lecture, au moins de la Bible. Vous me le concéderez.
Moins que les juifs, qui ont tenu du fait qu'ils sont tenus à cause de ça.
Oui.
Allez dans une synagogue et vous verrez quel point on suit la ligne de droite à gauche.
On peut dire qu'ils ont tenu grâce à ça.
Oui, hein? Absolument. Voilà. C'est le livre qui a tenu grâce à eux.
Voilà. Alors, justement, ce goût du jeu des mots, est-ce qu'un écrivain, ce n'est pas aussi quelqu'un qui produit du langage ?
Mais oui, évidemment. Et qui produit du langage contre tous les éléments de langage. C'est-à-dire que il y a eu une époque où les écrivains, il y en avait beaucoup, en France notamment. Ce qui est surprenant, c'est que vous prenez les pays, les langues, les grandes langues occidentales, je ne parle pas des Chinois, parce que là encore, vous avez un poème magnifique que j'ai rapporté de Pékin, vous voyez. C'est un poème qui se lit de haut en bas et de droite à gauche, et qui est un poème absolument magnifique de l'époque Tang, c'est-à-dire nous sommes au 8e siècle de notre ère. Si vous regardez ça, vous avez l'impression que c'est un Chinois qui l'a fait, mais si vous voyez quel est l'auteur qui s'appelle Gracilios, c'est un jésuite. Ah, attention.
Alors là, je dis pour nos auditeurs, il s'agit d'un portrait équestre de l'empereur Qianyang lors d'une grande inspection des troupes en 1739. Et c'est un jésuite qui a peint cela.
Oui, un jésuite italien, comme Matteo Ricci, qui est allé là-bas. Et ils ont compris quelque chose, les jésuites, à l'époque. On les a barrés parce qu'il y a eu la querelle des rites. Et tout ça était très intéressant à suivre, l'histoire.
Mais c'est intéressant, les jésuites sont des gens très intéressants.
Et voilà, c'est... Bien sûr. J'ai été un peu chez eux, et... Oui, donc je comprends très bien comment il fonctionne. Donc le problème était quand même le suivant, c'était la Chine.
Ça, c'est dans votre enfance, quand vous regardez,
oui, vous nous avez dit ça tout à l'heure. Non, mais dans votre famille, vous avez dit tout à l'heure.
Le Saint-Siège a toujours eu, et je crois encore aujourd'hui, l'ambition. Le projet, c'était la Chine. La Chine, oui, la querelle des rites, l'Église, oui, ah, ils ont barré, là, mais c'était la, voilà. Les jésuites ont fait quelque chose de très intéressant. Matteo Ricci, j'ai été me recueillir sur sa tombe à Pékin, très bien entretenu, de même que l'observatoire qui est à Pékin a été construit par les jésuites et pieusement conservé par tous les régimes, y compris le régime communiste. Et donc, la tombe de Matteo Ricci est parfaite. Matteo Ricci a compris une chose, c'est qu'il ne fallait pas s'adresser aux confucianisme, il ne fallait pas parler de religion. Il fallait s'adresser aux lettrés. Et par exemple, un des plus grands, qui s'appelle le père Verbiès, a eu une idée de génie. Il leur a dit, il a convaincu les Chinois que grâce aux mathématiques, il allait pouvoir, et ça les intéressait beaucoup, il avait le pouvoir de leur dresser un calendrier lunaire, comme ils font, et un calendrier impeccable. Et alors, il leur a fait la démonstration. Il a obtenu la direction il a eu des obsèques formidables à Pékin, et il était d'origine belge, etc. Donc, c'est ça.
C'est par le mot et par le langage qu'on peut entrer en relation avec l'autre?
Par les mathématiques.
Tiens donc.
Oui, c'est la science. C'est très important de comprendre ça.
Mais c'est un homme de lettres qui nous dit ça.
C'est un homme qui était
mathématicien. Oui, mais vous, vous êtes un homme de lettres. Oui, nous bien dire sûr, ça, ça nous décontenance.
Mais oui, mais vous avez tort parce que le père Verbier, ça a expliqué aux Chinois que le nommé Jésus-Christ, dont il se recommandait quand même, était un grand mathématicien. Et après tout, Dieu est peut-être un mathématicien.
Ils sont forts, ces jésuites, tout de même.
Pendant que Dieu fait des mathématiques, il construit le monde, peut-être, vous voyez. Donc, tout est... Enfin, je ne vais pas vous apprendre que grâce à grâce aux mathématiques, vous allez vous balader sur la Lune, ou sur Mars, etc.
Bon. Ou même, oui.
Et que c'est un grand mathématicien à qui on doit, quand même, Oppenheimer, à qui on doit, à un moment très précis, quelque chose de terrifiant, c'est-à-dire tout simplement la bombe atomique que Hitler était sur le point de découvrir. Donc,
voilà. Alors, Philippe Soler, ce rapport au langage qui est fondamental chez vous, et j'espère qu'à travers ces récits, vous en aurez fait comprendre les multiples facettes aux auditeurs de Fréquences Protestantes. Ce parcours, il me semble qu'aujourd'hui, de temps en temps, vous le dites dans certaines lettres. Vous dites « j'ai relu tel livre, ça tient la route », vous dites ça à un moment donné. Et vous dites à Dominique Rollin « j'ai relu tel de mes livres, je crois que c'est paradis ». Et vous dites « quand on a lu ça », c'est-à-dire on est saisi et le lecteur est saisi. Alors, on pourrait évidemment vous taquiner et dire, il se relit avec plaisir, mais ce n'est pas de cet ordre-là. On sent bien que c'est une manière de vous remettre à distance de votre propre œuvre. Aujourd'hui, alors que vous continuez à écrire, évidemment, continuez à travailler, quel regard portez-vous sur votre parcours d'écrivain? Tout de même, ça fait maintenant quelques décennies, on peut le dire, sans froisser votre coquetterie. Que vous écrivez, quel regard portez-vous sur ce parcours?
J'essaie d'en déchiffrer la vérité qui n'est autre que la liberté que je me suis octroyée. Et c'est si vrai que vous me voyez dans ce bureau, dans le temple,
oui,
de ce qui aura été la littérature.
Un des piliers de la France, disait... Hein, on peut le dire.
Du monde.
Bon, bigre.
Bon, oui. Mais je vous assure que c'est vrai. Vous n'avez pas dans un espace aussi restreint, il y a un très grand jardin, mais vous n'avez pas une cohorte de fantômes aussi contradictoires. C'est ce que Gaston lui-même, Gallimard, nous sommes rue Gaston Gallimard, appelait, comment a-t-il fait, le pacte avec l'esprit. C'est quoi ça? C'est-à-dire que je vais prendre le meilleur de là où il est, et parfois de gens qui ne peuvent absolument pas se serrer la main ou se supporter. Vous croyez que Jean-Paul Sartre pouvait parler avec Malraux? Vous croyez que lui-même pouvait parler avec Camus alors que des brouilles retentissantes? Vous croyez qu'Aragon pouvait parler avec Breton? Rupture absolue, ils sont tous là. Donc, vous croyez que Céline pouvait parler avec Claudel? C'est pas possible. Et ici, ils sont tous là. Alors, vous pouvez appeler ça Pléiade ou ce que vous voulez, peu importe. C'est Gallimard. Il n'y a pas au monde, je vous assure, de preuve plus éclatante qu'on peut faire un pacte avec l'esprit. C'est-à-dire quoi? Maintenir et penser toutes les contradictions possibles.
Voulez-vous dire que c'est la raison pour laquelle vraiment vous écrivez, vous aussi?
Exact. C'est-à-dire que c'est l'art dialectique par excellence qui consiste à maîtriser le plus largement possible pour garder sa liberté, car personne ne regarde par-dessus mon épaule ce que je suis en train d'écrire à la main. Attention, pas d'ordinateur. Alors là, c'est la fin de tout. Pas d'écran. Nous sommes loin des écrans. comme les aliénés de notre époque qui ne sont plus qu'écran sur écran, par terre, par terre, avec portable, smartphone, qui vivent en suivant leur smartphone, qui sont devenus la prothèse de leur smartphone. Donc,
vous tracez le sillon.
Mais bien, j'écoute ce que j'écris. Voilà, c'est-à-dire l'œil écoute, comme disait Claudel, et dans la peinture, magnifique expression. C'est-à-dire que tous les sens doivent être convoqués. C'est de l'art. C'est un art. Vous comprenez? Donc, c'est autre chose. Si c'est pas de l'art, c'est rien.
Donc, vous avez amorcé ce parcours il y a quelques années, vous le poursuivez. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la littérature vous a créé autant que...
Je suis quelqu'un qui a sorti son nom du dictionnaire latin et qui l'a fait rentrer dans le dictionnaire français. Voilà exactement mon identité. Je suis un mot choisi par moi pour être mon nom.
Un joyau devenu solaire.
Voilà, exactement. Et donc, c'est pas rien. C'est pas rien.
C'est même quelque chose. Merci beaucoup, Philippe Solers. Et je rappelle à nos auditeurs le titre de ce dernier ouvrage qui vient de paraître. En fait, ouvrage de correspondance, Lettre à Dominique Rollin, chez Gallimard. Merci beaucoup et belle fin de journée à vous.
Merci beaucoup. Et je suis protestant puisque je proteste contre la sauvagerie du temps.